ils firent un grand péché, ceux qui lui conseillèrent le voyage, dans la grande faiblesse où son corps était. Extrait de l'histoire de Saint-Louis par Joinville.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 25 août 1270, à proximité de Carthage, dans l'actuelle Tunisie, Louis IX meurt. Il était arrivé le 17 juillet pour entamer ce que les historiens ont appelé la 8e croisade. Il est parmi les rois de France le seul qui, en tant que souverain régnant, meurt à l'étranger. Il y en aura un autre, le roi Jean le Bon, qui mourra captif à Londres en 1364. Cette date de la mort de Saint-Louis, puisqu'il sera canonisé plus tard, nous y reviendrons, est devenue un jour particulier de l'Église et, pendant longtemps, de la monarchie française, puisque c'était véritablement une fête royale par excellence qui préfigurait ce qui pourra être par la suite les commémorations nationales annuelles. Ce n'est pas la première croisade que le roi Louis IX entreprenait. 22 ans plus tôt, le 25 août 1248, il avait quitté Aiguemorte pour embarquer vers une croisade qu'il avait amenée en Égypte. Au final, cette expédition avait été un échec. Il avait même été, pendant un mois, en captivité, en avril 1250. Et il était revenu dans son royaume en 1254, et c'était un roi qui finalement avait tout à fait conscience d'avoir échoué dans sa première croisade, et qui d'ailleurs, dans un objectif de roi chrétien, avait voulu réformer la justice et l'administration de son royaume. À vrai dire, cette deuxième croisade, qui visiblement émerge dans son esprit à partir de 1267, est quelque peu difficile à comprendre. Pourquoi Louis IX veut à tout prix faire une croisade qui visiblement ne peut pas être une croisade de libération de Jérusalem? Sinon, débarquer en Tunisie, pourquoi? Le contexte permet peut-être d'éclairer la politique royale en la matière. Bagdad a été prise par les Mongols en 1258, mettant fin à l'empire abbasside. La dynastie byzantine des paléologues avait réussi à rétablir la puissance de l'empire byzantin et s'était d'ailleurs alliée aux Mongols. Et puis, il y avait eu l'émergence du sultanat égyptien des Mamelouks qui avait réussi à résister à l'invasion mongole. D'autre part, il y a aussi peut-être le vide du trône pontifical qui a pu jouer, parce qu'effectivement, depuis 1268, le trône pontifical est vide, puisque les seigneurs cardinaux n'arrivent pas à se réunir de manière régulière et à se mettre d'accord sur un successeur du trône de Saint-Pierre. Et il faudra attendre 1271, c'est-à-dire après la mort du roi, pour voir un souverain pontife à nouveau à Rome. Il est possible que le roi ait également voulu soutenir son frère cadet Charles, qui avait été couronné roi de Sicile et qui avait des ambitions sur le Saint-Empire. Il est également possible qu'il ait voulu jouer des divisions qui traversaient le Maghreb musulman et jouer un jeu chrétien dans la complexité politique de la région. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il était parti d'Aiguemorte, qu'il avait fait une escale en Sardaigne pour attendre des vaisseaux génois, qui d'ailleurs n'étaient pas assez nombreux. Et donc, comme je le disais il y a quelques instants, il avait débarqué sur la côte de l'actuelle Tunisie le 17 juillet 1270. Sauf que, quand le roi débarque, il est déjà malade, et d'ailleurs, on a parlé d'une mort de peste, à vrai dire, c'est trop prêté à la peste. Ce n'est sans doute pas la peste qui a provoqué le décès du souverain, mais une épidémie mal élucidée, mal connue, qui de toute manière touche beaucoup plus que le simple roi, puisqu'il y a eu effectivement de nombreuses victimes en la matière. Il se trouve que le fils de Saint-Louis, Jean, est mort quelques jours avant son père, et que même le représentant du pape, le légat, avait également trouvé la mort de cette épidémie. Dès le moment de la mort du roi, s'est posée la question de la canonisation. En fait, dès son vivant, la réputation du roi Louis était extrêmement forte. Il avait essayé, selon les critères du XIIIe siècle, de vivre en roi chrétien. Très pieux, mais sans se laisser diriger par les prêtres, car il était conscient tout de même de son autorité royale, mais proche des pauvres, extrêmement attentif aux préceptes de l'Église, il correspondait véritablement à ce que celle-ci attendait de la part d'un roi chrétien. Et d'ailleurs, en 1271, c'est un de ses proches, Grégoire X, un Italien, qui est élu comme souverain pontife. Et celui-ci demande, très peu de temps après son élection, au confesseur du roi, Geoffroy de Beaulieu, d'écrire une vie de Saint-Louis pour présenter les pièces en vue d'un procès de canonisation. En effet, au XIIIe siècle, l'Église met en place toute une procédure, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, et qui est lancée pour connaître les vertus, la question des miracles qui font un saint. Et même si l'enquête vis-à-vis de Saint-Louis a été interrompue à quelques reprises, il faut attendre 1294 pour voir la dernière phase du procès en canonisation voulu par le pape Boniface VIII. Celui-ci publie la bulle Gloria Laus le 11 août 1297, qui fait de Louis IX, 27 ans après sa mort, Saint-Louis. Un roi de France est porté sur les autels. Mais d'ailleurs, les reliques de Saint-Louis ont également toute une histoire. Parce qu'il avait fallu, au moment de la mort du souverain, faire attention à la conservation du corps. Ou plutôt, comment éviter qu'on ramène un corps en voie de pourrissement jusqu'à Saint-Denis. Dans les heures qui ont suivi la mort de Louis IX, on a fait bouillir le corps. On a pu détacher les chairs, les entrailles, des os. Deux jours après sa mort, on a commencé effectivement cette opération et les entrailles ont par exemple été récupérées par le frère du roi, Charles, qui l'a ensuite amené à la cathédrale de Montréal en Sicile. Charles d'Anjou, d'ailleurs, aurait voulu lui aussi récupérer l'ensemble des ossements de son frère défunt, mais ça n'a pas été possible. On a ramené les ossements à Saint-Denis et il a été inhumé un peu à l'écart dans la nécropole royale. Mais ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que malgré les réticences de l'Église, on a voulu disséminer les reliques du roi. Par exemple, Philippe le Bel, son petit-fils, en 1306, parvient à transférer la tête du roi et sans doute le cœur à la Sainte-Chapelle à Paris. Le reste du corps était conservé à la nécropole royale, mais on l'a progressivement éparpillé. La mâchoire est allée pour la chapelle privée des moines de Saint-Denis, une côte royale est parti vers Notre-Dame de Paris, une phalange a été offerte au roi de Norvège, une autre pour l'empereur Charles IV en 1378, qui l'emporta jusqu'à Prague. Et bien plus tard encore, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, se fit offrir un petit morceau d'une côte en 1616. Donc il y avait véritablement eu une politique de dispersion des reliques royales. Mais en même temps, cette canonisation pouvait être pour les successeurs du roi une espèce de cadeau empoisonné. Je m'explique. À partir du moment où le roi Louis IX devient Saint-Louis et qu'il est donc porté sur les autels, on a fait un modèle. Il est le roi quasiment indépassable. Et ses successeurs devront gouverner le royaume avec cette ombre portée d'un roi saint. Et souvent, on disait que c'était si bien le bon temps du roi Saint-Louis, ce qui évidemment ne manquait pas de peser sur ses successeurs.